Sinon, peut-être on va commencer un petit peu déjà. Ça fera venir Jérôme. Donc, je vous propose de. Voilà, cette séance, la dernière en fait de notre cycle qu'on a prévu pour cette année, en commun donc avec l'église Saint-Eustache et l'oratoire. Donc, d'avoir ce cycle sur la chair, le corps et le monde, et donc de terminer sur ces annonces d'un monde nouveau. Alors. Il y a les grands prophètes, comme ça, on en a mis donc trois, Jérémie, Ézéchiel et puis Joël. Et puis on a mis deux apocalypses finalement, donc une dans le livre de l'Apocalypse et puis une dans l'Évangile selon Marc, pour montrer voilà, finalement cette réalisation de l'attente d'un monde nouveau. Alors... D'abord, c'est vrai qu'il y a, Jérémie, oui, qui est le plus connu, hein, Jérémie 31-31, on connaît souvent même ces chiffres, puisque ça parle de l'Alliance Nouvelle. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voulait nous lire ce Jérémie 31. Vous pouvez nous lire Jérémie 31, là voilà, dans la traduction œcuménique.
Alors, des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance. Mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur », car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus.
Donc voilà ce premier texte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez sympathique, assez mystérieux, assez... Alors des jours viennent, c'est vrai que... Voilà, on se dit, c'est un peu... Ça risque de devenir demain, on rase gratis, si vous voulez, comme on raconte cette histoire où... Enfin, vous la connaissez, ou la devanture d'un coiffeur, il avait marqué « Demain, on rase gratis ». Alors, les gens revenaient le lendemain en disant « C'est peut-être... » Il disait « Mais non, regardez le panneau, il y a marqué que c'est demain, en fait, qu'on rase gratis. » Donc, ça pourrait être comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours un peu le risque, si vous voulez, de cette... Ça peut sembler être une manipulation, en fait, de dire « Voilà, il y a les lendemains qui chantent, donc... aujourd'hui, préparez-vous, soyez bien sages, et puis voilà, du coup, vous êtes dans cette disponibilité à la venue du royaume de Dieu qui va arriver. Si vous êtes bien prêt à ce moment-là, vous allez gagner le pompon, finalement. Alors, c'est vrai que malheureusement, on a, je parle au pluriel, je dirais de collectif, hein, de dire... Les églises, mais pas seulement, les partis politiques, ont quand même beaucoup joué sur ce levier-là de manipulation, finalement. Or là, je ne suis pas sûr, que je ne pense pas que ce soit tellement ça, finalement, qui soit en cause ici, parce que quand on lit le texte, c'est pas tellement sur le levier du chantage ou de la menace, hein, au contraire. On voit que sans arrêt, ça annonce du pardon, quelque chose comme ça. On vient juste de lire Jérémie 31. Oui, j'ai eu ton message. Donc, j'ai dit que tu avais eu un ennui au lycée et que tu arrivais en courant. Oui, donc Jérémie 31, je disais que c'est un très beau texte, mais c'est vrai que ça a pu parfois être utilisé. Les jours viennent où voilà, le royaume va s'accomplir, ça peut être utilisé, ça a pu être utilisé par les partis politiques, par des églises. par des religions diverses et variées, comme un petit peu une manipulation, peut-être un peu aliénante, pour que les gens soient un peu dressés par cette annonce, mais que ce n'est pas tellement le cas ici, il me semble, parce que globalement revient à plusieurs reprises quelque chose qui est de l'ordre du pardon et d'une alliance inconditionnelle, en fait. On le voit à plusieurs reprises. D'abord, c'est que « ils ont rompu mon alliance ». Non, ça commence même avant, en fait. « Je les ai pris par la main », en fait. Donc, il y a vraiment... c'est Dieu qui est allé les chercher. C'est pas eux qui ont supplié, se sont préparés, donc qu'ont pu comme ça accueillir. Non, c'est l'initiative de Dieu qui a décidé de les prendre par la main, de les sortir par la main. Ensuite, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je continue à rester le Seigneur. Ensuite, il y a... ils seront... je deviendrai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il y a pas marqué s'ils sont bien sages, s'ils sont gentils, s'ils croient assez fort, s'ils obéissent bien, à ce moment-là, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il y a marqué non, c'est de l'ordre de la promesse d'un futur... surtout que le futur dans l'hébreu, c'est pas tant du futur que de l'inaccompli, si vous voulez, et qu'il n'y a pas marqué comme ça le semble être, je deviendrai Dieu pour eux, ils deviendront mon peuple, mais je serai tout simplement, donc où je suis, je serai, hein, je continue à l'être. Et puis ensuite, à la fin, ça annonce encore le pardon des crimes, des fautes, on n'en parle plus. Donc si vous voulez, tout le texte est bâti au contraire sur la fin d'un chantage et sur une alliance nouvelle. Alors ce mot alliance nouvelle, s'il est si connu des chrétiens, c'est qu'effectivement Nouveau Testament, nouvelle alliance pour nous, c'est l'alliance en Jésus-Christ qui effectivement est quand même dans la continuité de ce qui est annoncé ici, de ce qui est attendu, de ce qui est espéré.
Bon, bonsoir à tous, excusez-moi de mon retard. Oui, on commence par un très beau texte, en effet. Les jeux sur les temps, l'inaccompli, moi ça ne me choque pas tellement, je deviendrai, parce que c'est presque un être en devenir, donc inaccompli justement. C'est assez lacanien, l'idée qu'il y a un manque, il y a un trou dans le réel, et il faut vivre avec. Et finalement, toutes nos inquiétudes sont des symptômes de ce trou, de ce manque. Et que ce soit inscrit dans un temps grammatical, je trouve que c'est intéressant, d'autant plus que l'expression « je deviendrai Dieu pour eux », c'est quand même très audacieux. Comme si Dieu entrait dans le devenir, Théière de Chardin serait assez content de cette traduction. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que tous ces textes prophétiques sont à l'inaccompli ou au futur, et que donc le Dieu auquel il nous est donné avec lequel il nous est donné d'entrer en relation est un Dieu qui vient pas seulement du passé, quoi. C'est ça qui est quand même fondamental. C'est pas un Dieu qui vient seulement de la tradition, c'est pas seulement le Dieu des pères, c'est aussi le Dieu des fils et des fils à venir. C'est le Dieu qui vient de l'avenir, le Dieu qui vient du futur. Je pense que c'est pas uniquement un jeu de l'esprit de voir ça. Je pense que c'est quand même assez exceptionnel, surtout face à un présent qui était affecté par la crise. Quand même, Jérémie, Ézéchiel, ils écrivent dans des moments difficiles, comme le deuxième Isaïe, etc. On ne mesurera jamais tout ce qu'on doit finalement à la chute de Jérusalem et aux Babyloniens. On leur doit beaucoup quand même, parce qu'ils ont précipité la révélation. Et puis, ce Dieu qui, malgré l'épreuve, est le Dieu qui va faire revenir. On lit quand même tout ça pendant le temps de l'Avent, tout ça c'est fantastique, tous ces textes au futur, un jour viendra où Jérusalem refleurira, le désert refleurira, etc. Moi je suis toujours très énergisé par ce type de texte. Comment, face à l'épreuve, et puis quelle époque peut prétendre ne pas traverser d'épreuves, comment ne pas avoir envie de relire ce genre de texte, et même j'ai envie de dire de le proclamer, on a envie d'entendre ça, On a envie de l'entendre chanter. Le Messie de Handel, c'est ça d'ailleurs. Toute la première partie, c'est les textes prophétiques qui annoncent la venue, on ne sait pas de quoi d'ailleurs. C'est le voilà, un jour je serai votre Dieu. Moi je trouve merveilleux. Alors peut-être que ma foi a beaucoup à voir avec ce Dieu qui vient du futur et qu'on attend et qui va germer en nous et qui s'annonce et que l'on devine et en même temps pendant ce temps-là on morfle, on comprend pas, on est dans l'épreuve, on patine, on est inquiet, etc. Mais quand même, c'est les psaumes aussi. Hein. Quand on lit les psaumes, quelquefois, quand je suis infidèle à mon bréviaire, mais il ne faut pas le dire, mais ça m'arrive. Et quand je reprends un office que je n'avais pas lu, je me dis, voilà, quoi, ça remet dans l'axe. Ça remet dans un présent, entre un passé et un avenir, qui soit un présent juste. C'est-à-dire pas un présent nostalgique du passé ou pas un présent qui anticipe l'avenir de manière obsessionnelle, névrotique, mais un présent qui sait qu'il est éphémère, mais voilà, c'est le présent qui nous est donné. Et ce présent, il est à la fois marqué par la crise et par l'espérance. Donc c'est un beau texte, il faudrait le bramer plus souvent.
voilà. Mais c'est vrai qu'en Christ, on dit que ces temps nouveaux, ces temps qui viennent, en fait, on l'a dans Jean 4, hein, l'heure vient et elle est déjà là, en fait. Et le royaume est présent, finalement, et on l'attend encore. Donc je crois qu'effectivement, c'est pas simplement des lendemains qui chantent, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de... au paradis, vous aurez 70 vierges. C'est pas le paradis des vierges dans ce cas-là non
ou
plus.
Le grand soir.
Ou le grand soir. Ou voilà, non. C'est parce que je crois qu'effectivement ça c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du à la fois du présent et du futur. Voilà. Mais d'ailleurs il y en a où on va le voir hein, dans ces prophètes où il y a déjà du passé qui arrive en fait, de l'accompli déjà, de quelque chose qui est déjà réalisé de ce salut. Et on le voit bon, encore plus, bien sûr, dans les évangiles, où on parle du royaume qui est là pour le présent. Alors, oracle du Seigneur, bon, je le dis souvent, mais si vous voulez, Seigneur, l'ennui, c'est vrai que ça fait quand même très féodal, et que chaque fois qu'on voit comme ça Seigneur ou Yahvé, je préfère la Jérusalem que tu as en main avec... ils ont laissé Yahvé qui est bien le Dieu qui est source d'être, le source de bonté et de pardon. Ça pourrait faire peur si des jours viennent, oracle de Dieu. À ce moment-là, on pourrait se dire, bon, c'est un Dieu puissant, un Dieu actif, un Dieu créateur qui fait le ménage. Mais là, oracle du Seigneur, oracle de l'Éternel, oracle de Yahvé, c'est déjà, dans les premiers mots... l'annonce d'un secours, d'un pardon, d'une tendresse de Dieu qui est annoncée, en fait. Alors, je conclurai une alliance. Vous savez que conclure une alliance, qui est marqué conclure, c'est couper une alliance, en fait. C'est le verbe couper. Et effectivement, c'est dû à une tradition pour quand on faisait une alliance entre deux. Mais on le voit raconté plusieurs fois dans l'Ancien Testament, quand on faisait une alliance entre deux pays, entre machin et truc, entre deux rois, entre Dieu et le peuple, on coupait en deux une bête, un agneau, une chèvre, un bœuf, et puis les gens qui contractaient l'alliance passaient entre les deux moitiés de la bête, finalement. Et c'était pour dire, voilà, on ne fait plus qu'une seule... on fait plus qu'un seul on fait alliance, on fait une équipe finalement, une seule équipe, et si unilatéralement on se coupe de cette alliance, de l'autre, si on rompt l'alliance, hein, ben on sera aussi mort qu'un animal s'il est coupé en deux, si vous voulez. Donc c'était quand même très figuré, le sang de l'alliance, c'était ça, c'est aussi, c'était pour dire, s'il y en a un des deux qui rompt, ben il est mort de chez mort. Et là, on ne peut pas vivre sans l'autre, finalement. C'est ça que ça veut dire. Sans l'autre moitié. Et donc, Enfin, c'est une alliance, c'était assez concret de passer entre la bête coupée en deux dans le sens de l'épaisseur. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a les deux pattes de gauche à gauche et les deux pattes de droite à droite, vous voyez. Et la moitié d'une corne, une corne d'un côté, une corne de l'autre. Et voilà, un museau, une narine d'un côté, une narine de l'autre, un œil d'un côté, un œil de l'autre. Donc, cette alliance, pourtant, voilà, ils ont rompu, mais ils n'en sont pas morts. Hein. Donc, ça montre bien, voilà, là aussi, que on n'est plus dans ce type d'alliance, en fait. Où, c'est une alliance inconditionnelle, on dit, voilà. Et alors, elle est pour l'instant, ce n'est pas une alliance tellement universelle. Elle est avec Israël et Juda, quand même. C'est pas... cette nouvelle alliance, elle n'est pas annoncée avec... un autre peuple qu'Israël, contrairement à ce qu'on a pu longtemps entendre, contrairement à ce qu'on peut éventuellement lire dans la théologie chrétienne. Je ne crois pas que Jésus dise ça du tout, bien entendu. Hein. Jésus était juif avec des juifs. Il n'a pas été question du tout de que l'alliance nouvelle ne soit plus avec Israël. Bon, elle s'élargit, elle s'ouvre. Mais là, l'alliance qui est annoncée dans Jérémie 31, c'est clair que c'est une alliance avec Israël et Juda. Alors cette alliance nouvelle, peut-être que nouvelle, c'est pas bien traduit, si vous voulez, parce que c'est plus un verbe de rajeunissement, de quelque chose qui était cassé et puis qu'on reconstruit. Hein. Par exemple, dans Ésaïe 61,4, il renouvelle des villes ravagées. Ils les reconstruisent, ils les... hein. Ou bien le psaume 103, bien connu, « Tu me fais rajeunir comme l'aigle. » Ben c'est « tu me renouvelles comme l'aigle. » Donc c'est pas que l'aigle, on remplace l'aigle, allez hop, on l'enlève et puis on met un nouvel aigle. Non, c'est que l'aigle, bon, il vieillit, il use, et puis on le renouvelle. Et donc c'est plus une alliance renouvelée, rajeunie, réparée, prolongée, accomplie, on pourrait dire. Enfin, je ne sais pas, moi, si vous voulez exactement. Mais enfin, en tout cas, c'est pas un... on zappe pas l'ancienne alliance pour mettre une nouvelle à la place. Et ça aussi, par rapport à, je dirais, à la façon de voir des chrétiens, mais c'est cette façon de voir des chrétiens, de certains chrétiens, finalement. Elle nous est due surtout à Marcion, à mon avis, qui est au IIe siècle, a commencé à dire, ben en fait, on en a marre de tous ces machins de l'Ancien Testament, et puis le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est terrible, qui est méchant, et l'Évangile, c'est un Dieu qui est gentil. Donc on supprime tout ce qui est Ancien Testament, tout ce qui est Ancienne Alliance, tout ce qui est citation de l'Ancien Testament dans les Évangiles. Et Marcion avait préparé un diatessaron, à travers quatre évangiles pour en faire un seul, bien nettoyé, purifié finalement, entre guillemets, entre double guillemets, purifié de tout ce qui pourrait être ancienne alliance. Donc à la limite, Jésus n'est plus le Messie, n'est plus le Christ, puisque le Christ, c'est la réalisation justement de ses promesses. Donc non, Jésus est le sauveur ultime, mais voilà, en ayant zappé complètement l'ancienne attente, l'ancienne alliance. Et je crois que ce n'est pas ça qui est en cause ici. Et d'ailleurs, on le voit dans ce que dit Jésus, il ne vient pas pour supprimer la loi, pas même un point de lettre de la loi, il vient pour l'accomplir. Et donc là, on est plus effectivement dans l'accomplissement de la première alliance, plus dans la rajeunir, la ressusciter, l'accomplir, dirait Jésus. Lui, il traduit ça par l'accomplir, finalement. Et ça, je crois que c'est effectivement important, parce que pour comprendre le Nouveau Testament, est-ce que c'est en quoi Jésus est le Christ, finalement, c'est indispensable de comprendre de quoi on parle, si vous voulez. Qu'est-ce que veut dire Christ, hein, voilà. Et puis, lui, il se place dans cette continuité, dans ce débat, dans cette façon de voir et d'être qui était celle de la Torah, finalement. Mais il l'accomplit, donc c'est en même temps, c'est un renouvellement, renouvellement complet. Mais c'est quand même la même alliance, finalement. L'alliance entre Dieu et l'humanité, de toute façon. Dieu et Israël. Dieu et Israël. Voilà, en fait, c'est ce qui est marqué. Hein. Israël et Juda, donc les deux royaumes d'Israël. Les deux moitiés d'Israël. Voilà.
Mais tu as raison de dire, c'est important, c'est une alliance avec Israël. Ça peut gêner d'ailleurs, mais c'est une alliance avec Israël. On dit trop vite, nous chrétiens, c'est une alliance avec l'humanité, parce que voilà, on est universaliste, catholique. Mais en fait, cette catholicité a quelque chose d'un universel très abstrait, en fait, un peu maçonnique. Alors que c'est bien une alliance avec Israël, mais un Israël élargi. Et ça, je pense que pour... c'est évidemment pas l'Israël, encore moins l'État d'Israël, mais c'est pas seulement l'Israël des pharisiens. Et c'est là, à mon avis, le clivage et ce qu'il y a d'insupportable dans la nouveauté introduite par Jésus-Christ. Parce que tout d'un coup, et les premiers disciples vont vite le comprendre, avec les débats sur la nourriture cachère, sur la Torah, sur la circoncision, sur les 613 mitzvot, etc., très vite. Où sont les limites d'Israël? Est-ce que c'est les pharisiens ou est-ce que c'est les gens du temple? Est-ce que c'est le lobby du temple qui peut décider des limites? Et là, tout d'un coup, on a un Israël effectivement élargi qui est appelé évidemment à se confondre avec l'humanité. Mais il ne faut pas aller trop vite pour que ce soit effectivement pas abstrait. Il faut comprendre que Dieu fait alliance avec son peuple, le peuple qu'il choisit. Et bien sûr que l'on retrouve au point oméga l'humanité qu'il a créée. Ça, c'est entendu. Mais il faut passer par Israël, effectivement. J'avoue, en t'entendant le dire, je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. Et puis du coup, évidemment... s'interroger, qu'est-ce qu'Israël, évidemment, bien sûr, est-ce que ça veut dire que nous sommes juifs ou spirituellement sémites, disait le pape Pie XI. Alors, d'autre part, je pensais à une autre chose, ça n'a rien à voir, mais tu évoquais Marcion, l'hérésie de Marcion, qui supprime l'ancienne alliance. Les nazis étaient marcionnites, puisque certaines églises, enfin, et puis l'État nazi a encouragé la publication, on la trouve, hein, d'une Bible sans Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament, et pas du tout parce que c'est un Dieu gentil, parce que ça ne les intéresse pas tellement, à la limite, je pense que... Mais tout simplement parce que... par antisémitisme, évidemment. Et donc, ils voient, je ne sais pas comment, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, peu de traces de sémitisme. Bon, je pense que le Père du Jardin le dit, d'ailleurs... Après la persécution des Juifs, il y aurait eu une persécution des chrétiens. Il y a une logique interne entre les deux. Mais en tout cas, ils ont publié une Bible où ils suppriment l'Ancien et, contrairement à Marcion, ils mettent quelque chose à la place. Et ce sont, les Nibelungen, tous les mythes germaniques, toutes les sagas germaniques, avec, là, pour le coup, aucune restauration possible, puisque les mythes germaniques, ça se termine mal. Hein, c'est le crépuscule des dieux. Je crois que c'est la seule mythologie qui soit pessimiste, foncièrement. Le panthéon germanique est voué à disparaître. Je pense que c'est la seule religion, d'ailleurs, qui a pensé sa propre fin. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que les dignitaires nazis se soient vus comme ça. Je fais vraiment une parenthèse, mais vous connaissez le film La Chute avec Bruno Ganz sur les derniers jours dans le bunker, et effectivement on voit qu'il y a une espèce de mentalité qui est imprégnée par les mythes germaniques et qui n'a plus rien de judéo-chrétien.
Mais là, dans un sens, on annonce quand même pas la fin de Dieu, bien entendu, mais la fin de la religion.
Oui, mais enfin, c'est quand même Dieu qui prend l'initiative.
Oui, puis c'est Dieu qui règne,
oui,
quand même, à la fin,
voilà.
Réellement.
Il sera tout en tous.
Il sera tout en tous, et donc c'est la fin de la religion. Et ça, c'est quand même assez spectaculaire, j'allais dire. C'est-à-dire qu'à la fin, effectivement, l'alliance, elle est renouvelée. Alors, ton histoire d'élargissement, en fait, je pensais tout d'un coup au voile du temple qui est déchiré. Ouais. C'est-à-dire, voilà, il y a le Saint des Saints, mais en fait, il a la vocation à diffuser sur l'ensemble de la terre ce Saint des Saints, et que la terre entière et non plus seulement un lopin de terre qui serait voilà, géographiquement sur le Eretz Israël, mais du coup c'est la terre entière qui devient Saint des Saints. C'est pas le Saint des Saints qui est profané, c'est l'inverse.
Mm-hmm. Voilà.
Et donc cette alliance-ci, elle est renouvelée. On voit, c'est plus dans le mode finalement de diffusion, le mode de révélation. Ça se fait sans médiation en fait. Et donc c'est plus par Moïse, c'est directement dans le cœur de chacun. Et c'est là finalement qu'il y a quand même la fin de la religion qui est programmée dans cette histoire. Et on le retrouve dans l'Apocalypse, je ne sais pas si c'est dans le texte qu'on a mis, je ne crois pas, mais dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus de temple, nous dit l'Apocalypse. Il n'y a plus besoin, puisque Dieu est tout en tous, donc c'est plus la peine.
Il y a des portes partout.
Et il y a des portes partout, voilà.
Tu as hâte.
Toutes les directions. Quoi ?
Tu as hâte ?
Non, on y est déjà. On y est déjà. En partie, voilà. En partie. Donc finalement, c'est là cette nouveau mode de la révélation. Finalement, il n'est pas extérieur par des tables ou par des prophètes, mais il est intérieur par l'Esprit Saint finalement. Je déposerai mes directives à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est les deux autres, peut-être Ézéchiel et Joël, où on voit mieux comment ça peut fonctionner, mais c'est intérieur par l'Esprit Saint, et donc chacune et chacun devient prophète. Donc ça, je pense que c'est ce que, en particulier, c'est ce qu'on voit dans l'Alliance chrétienne. C'est ce qu'on dit à la Pentecôte, finalement, qu'on a célébré toutes les églises, une bonne partie, dimanche dernier. Chacun est fait prophète, donc on n'attend pas un autre prophète ultime, et même Jésus à la limite n'est pas vraiment prophète, il est plus que ça, il est prophète bien sûr, mais il est plus que ça, il est celui par qui finalement chacun est fait prophète et prophétesse, c'est un faiseur de prophètes, c'est un autre niveau finalement. Et c'est en ça qu'il est le Christ, c'est-à-dire qu'il accomplit cette alliance qu'il a émise au futur et pour eux finalement. C'est ça qui est un peu étrange. On se dit, qui c'est ce eux, quoi? Donc les autres, c'est plus fait au vous, quoi, ou au nous, en fait. Hein. Donc c'est vrai que c'est plus encourageant pour le lecteur. Hein. Le lecteur de Jérémie 31, il peut se dire, j'aimerais bien être dans les « eux » à qui ça va arriver, mais en fait, oui, bien sûr. Hein.
On lit Ézéchiel.
Est-ce qu'il y a d'autres... Non, c'est bon, on peut lire Ézéchiel, d'accord. Oui, oui. Ézéchiel 11. Merci.
Je leur donnerai un cœur loyal. Je mettrai en vous un esprit neuf. Je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais ceux dont le cœur se plaît aux horreurs et aux abominations, je chargerai leur tête de leur conduite.
Alors, je chargerai leur tête de leur conduite. Traduction étrange, je ne sais pas comment vous comprenez ça. C'est-à-dire, je pense que je ferai retomber sur leur tête les conséquences de leur conduite, c'est ça. S'ils font le mal, je ferai retomber le mal sur eux. Je vais regarder
Donc, moi j'ai regardé un peu l'hébreu, il y a marqué « mets ». Où je donne en fait leur cheminement sur leur tête. Donc c'est un peu ambigu. Alors j'ai regardé un peu, j'ai pris une concordance. Hein. C'est souvent en fait comme ça qu'on peut faire pour voir qu'est-ce que veulent dire les choses. Parce que les mots, les expressions, ça peut être idiomatique un petit peu. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Alors c'est vrai que dans Ézéchiel, j'en ai trouvé J'en ai trouvé trois où c'est quand même plutôt un contexte mauvais. Ézéchiel 9-10, Ézéchiel 11-21, Ézéchiel 22-31, où c'est mauvais et où ça veut dire, bon, ils vont, comme tu le dis, Jérôme, ils devront assumer les conséquences du mauvais cheminement qu'est le leur, en fait. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ça peut être positif, par exemple, dans Michée 2-13, ça peut vouloir dire l'Éternel sera à leur tête, en fait. Et donc, effectivement, ça peut être, dans un sens, c'est responsabilisant, moi, je pense, plutôt. C'est-à-dire, à partir du moment où on leur met, on leur donne la loi dans leur cœur, la loi en eux, alors, c'est vrai que, du coup, ça pose la question de la liberté, parce que, si vous voulez, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a tout un tas de choses. Donc, je suis d'accord. Et je le pense sincèrement que Dieu parle à l'intérieur de chacune et chacun par son esprit. Et donc en nous, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la parole de Dieu qui s'exprime. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas que la parole de Dieu qui s'exprime. Il y a tout un tas d'inconscients, de blessures anciennes, de faiblesses. Et puis on est quand même un peu des enfants, pas tout à fait finis, avec nos... Enfin voilà, nos imaginations, nos je sais pas quoi, nos instincts de sanglier, de chien de meute, voilà. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la question, c'est de se dire, je vais dire, l'Éternel m'a dit que je fais ceci, je vais le faire. Ben, parfois c'est l'Éternel qui me l'a dit, parfois c'est le diable, si je puis dire. C'est pas que le diable, ça soit une sorte de dieu méchant, mais c'est ce qui en moi et de l'ordre de va dans le sens de l'éparpillement, du gâchis, quoi, du chaos. Et donc la question, effectivement, c'est que si vous voulez, on n'est pas dans un exercice abstrait dans l'existence. Donc si on choisit le mal, ça fait du mal, quoi. Et donc c'est ce que tu dis, je pense, Jérôme, effectivement, c'est que il y a ce risque de la liberté où quand on fait n'importe quoi, ça va faire de la souffrance et de la mort, hein, quand même. Et donc ça veut dire peut-être un encouragement quand même à ne pas se prendre pour Dieu, peut-être, hein. C'est peut-être ça, c'est un peu la limite du truc, c'est que on dit oui, vous êtes prophète et prophétesse, allez-y avec votre conscience éclairée finalement par le Saint-Esprit. Oui, mais peut-être qu'il faut cette humilité de se dire, est-ce bien, finalement, l'Esprit-Saint qui m'a dit ça? Alors, en même temps, ça peut être... quand c'était vraiment Dieu qui avait parlé, à ce moment-là, c'est le serpent de la Genèse. Dieu a-t-il vraiment dit? Et qui va me dire, Dieu t'a dit ça. Mais en fait, c'est peut-être pas Dieu qui te l'a dit, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être toi qui te fais un film, et qui vient détricoter ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous-mêmes, en déposant dans notre cœur sa parole. Et puis d'autres fois, c'est cette humilité qui va justement nous dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça? Non, en fait, c'était pas Dieu, c'était autre chose. Donc je crois qu'effectivement ça encourage quand même à vivre cette Pentecôte avec humilité, peut-être, je sais pas comment dire, non? Après on l'interprète comme on veut, si vous voulez, mais je ne pense pas que ça puisse être lu, en tout cas, comme une menace, quand même, parce que ce serait contradictoire avec l'idée du pardon qui est très présente, j'allais dire, dans ces prophètes.
La Bible de Jérusalem est assez, va dans le sens de la responsabilisation. Quant à ceux dont le cœur est attaché à leurs horreurs et à leurs abominations, je leur demanderai compte de leur conduite. Alors l'image de la tête disparaît.
Oui, puis de rendre compte, on se dit, il y a un grand bilan, on est convoqué, on dit, elle est un mauvais point, les machins.
Oui, je leur demanderai, je leur demanderai de répondre, c'est ça, responsabiliser.
Ah oui, de répondre, c'est mieux.
Oui, c'est...
Oui, mais en plus, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que c'est plus les conséquences de nos actes.
Mm-hmm. Oui. Devant un Dieu qui pardonne, il n'y a pas de grande...
Dieu qui pardonne, je pardonne leurs crimes, leurs fautes, j'en parle plus, j'ai oublié, c'est effacé, c'est pas, c'est pas le Dieu qui va entretenir cette rancune en disant t'as fait une faute, machin.
Oui, mais il n'y a pas de pardon sans justice, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est quand même. Il y a les deux.
L'amour est au-delà de la justice. Quand on aime quelqu'un, on ne lui en veut pas. La question, c'est que quand on a fait du mal, je veux dire, je suis désolé, j'ai écrasé votre enfant, il est tout mort, j'ai demandé pardon. Non, je veux dire.
C'est ça, il faut bien une justice. Donc il faut bien.
Mais quelle justice ?
Celle d'un Dieu qui est capable d'aller au-delà et de ne pas en rester là.
C'est ça. T'as écrasé un enfant, donc je te garde mauvais point. Non, je veux dire, il y a un véritable de travail de réconciliation, de guérison à opérer face à une horreur pareille. C'est pas simplement de savoir si on garde dans un registre. Pour faire le bilan plus tard. C'est là que la trahison de Jérusalem me chinoise un peu, alors que là, à la limite, c'est la violence de celle de la taube. Ici, la traduction œcuménique, leur tête sera chargée. Si on a tué un enfant en l'écrasant avec sa voiture, ça reste quand même, ça nous reste sur notre tête, dans notre tête. Et là, on a bien besoin de Dieu, je pense, justement, pour venir nous aider, et puis aider, bien sûr, les victimes, au combien, mais tous, aider à faire... à cheminer par rapport à ça, non ?
Moi c'est comme ça que je l'entends, justement.
Oui, d'accord.
Voilà. Alors, ce qui est étonnant, je mettrai en vous un esprit neuf, un cœur de chair, etc. C'est étrange, moi depuis que je suis enfant, cette image me trotte dans la tête, parce qu'un cœur de chair, j'ai l'impression d'avoir un cœur de chair, déjà. S'il me disait un jour, tu auras un cœur... qui ne soit pas de chair, justement, un cœur immatériel, un cœur de lumière, un cœur astral, tu sais, comme les trucs New Age. Mais là, il dit, je donnerai un cœur de chair. Donc, c'est quand même un jugement et un diagnostic sur le présent qui est assez rude. Ça veut dire que, précisément, le cœur n'est pas de chair. Il est de pierre et l'esprit n'est pas neuf. Alors que l'esprit, normalement, est immatériel, il est incorruptible. Or, là, c'est un esprit qui a vieilli, qui s'est, qui s'est essoufflé, lui qui est le souffle. Hein. L'esprit, c'est le souffle, c'est l'haleine, c'est ce qui... c'est la rouard, c'est ce qui anime, c'est ce que Dieu insuffle, etc. Donc c'est quand même un jugement sur le présent qui est très sévère. C'est souvent quand on lit un peu en creux, comme ça il y a un négatif dans les textes.
Oui.
On s'aperçoit que ce qui est derrière, le bilan qui est fait de ce qui est vécu est quand même globalement négatif.
Là, je sais pas, parce que le corps, c'est traduit corps, mais en fait, en hébreu, c'est chair, en fait. Donc, je leur enlèverai de leur chair leur cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair. C'est quand même rigolo.
En hébreu, c'est quoi ? Parce que moi, j'ai
à pas... la place de, je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre. C'est de la chair, de leur chair.
Ah, d'accord.
Leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. C'est le même mot, le sar.
D'accord.
Et donc, c'est vrai que c'est rigolo. Peut-être. Donc la chair est quand même là plutôt positive, puisqu'on parle selon notre thème, la chair est quand même positive. Et c'est dans notre cœur de chair, finalement, que Dieu vient, renouveler. C'est là, renouveler, rajeunir, comme tu disais, avec l'esprit vieilli, essoufflé, le cœur qui est venu se scléroser, se durcir.
C'est même dur pour la pierre, parce qu'au fond, les temples sont faits de pierre. Nous-mêmes, nous prions dans des temples de pierre. Alors, bien sûr, on est sensible toujours à l'idée qu'il puisse y avoir... C'est l'image que prend Jésus, au fond. Quand ses apôtres ou ses disciples admirent le temple, il dit « viendra un jour où il ne restera pas, pierre sur pierre ». C'est pas parce qu'il est rigoriste et qu'il se moque de leur élan esthétique, parce qu'en fait il se récrie devant les décors, etc. Mais c'est parce que il y a quand même un jugement sur sur ce qui solidifie, sur ce qui pétrifie au fond, au sens étymologique du mot.
Mais peut-être qu'est-ce qui manque alors à ce cœur de pierre ? C'est peut-être la souplesse.
Oui.
Non ?
Oui.
C'est d'être
assouplit ce qui est rigide. C'est le Veni Sancte Spiritus, on a chanté ça dimanche. Oui.
C'est de venir finalement, et par rapport à l'esprit nouveau, c'est peut-être un esprit, là encore, de renouvellement, c'est-à-dire un esprit, comme le dit Jean hein, dans Jean 3, un esprit de l'inattendu, un souffle d'inattendu, de souffle de... Mais je dirais que tous ces textes, quand même, de ces annonces du monde nouveau, ça ouvre à une attente de l'inattendu. Donc forcément, une souplesse, j'allais dire, du cœur, de l'esprit, non ?
Oui, et puis cette attitude, l'attitude d'Ézéchiel. En plus, Ézéchiel était un prêtre du temple, un Cohen. Donc il appartient à un corps qui est quand même, par nature, un peu conservateur par rapport aux prophètes. Les prophètes sont quand même plus dans le futur, voilà. Les prêtres du temple étaient quand même des gardiens du temple, un peu. Donc souvent... ils incarnent, on a tous des polarités différentes, mais le Cohen est quand même plus enclin à répéter des routines, des sacrifices, etc. Il y a la prêtrise, il y a la royauté, il y a la prophétie. La prêtrise est quand même la prêtrise juive, hein, mais aussi probablement toutes les formes de prêtrise sont structurellement un peu conservatives. Bon, alors qu'il puisse tenir un discours comme ça, c'est étonnant. Parce que nous-mêmes, au fond, quand on regarde un peu ce qui nous entoure, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on lit la presse, quand on regarde la télé, au fond, on parle toujours, oui, de déclinisme, de morosité, on a l'impression que la bêtise triomphe. Alors à un moment, on sature, on éteint tout, on dit « je ne veux plus entendre parler de ça », parce que la bêtise qui se répand partout, plus on a de chaînes de télé, plus ça paraît épouvantable. Et donc elle piétine, elle souille la dérision sur les plateaux, le petit journal, j'en passe, bon bref, je l'ai dit. Et on se dit, mais eux ils réagissent pas comme ça, et ils ont des raisons aussi fortes que les nôtres, voire plus. Ils sont face à la violence, face à des empires qui ont des logiques d'empire, de puissance, d'hubris, de domination, de volonté de puissance, d'écrasement, de mépris. Où on tue, où on torture, etc. C'est ça quand même la peur quand on vit dans une petite ville, une petite bourgade de la Palestine, qu'on n'appelait pas encore comme ça, mais voilà, on vit, on est en tenaille entre l'Égypte et l'Empire babylonien, et ça n'est pas rien, l'image de Babylone, d'ailleurs, on va voir dans l'Apocalypse, Rome, c'est Babylone, ce qui prouve bien que ça a quand même traumatisé les gens. Et nous, est-ce qu'on est capable de ce sursaut de foi et de parler comme ça au futur et de dire, voilà, le jour viendra et puis ce ne sera pas nous, parce qu'on est toujours un peu prométhéen, on croit que c'est nous, on va finir par faire... Et là, tout d'un coup, ça vient d'ailleurs, par grâce, c'est la grâce... qui entre dans l'histoire, c'est la grâce qui entre dans le monde, c'est la légèreté, c'est la bienveillance, et que c'est possible, et que c'est possible, et que ça entrera par une blessure d'ailleurs, parce que bien sûr pour nous on ne peut pas quand même séparer ça du visage du Christ. Voilà, moi je suis toujours, je me dis quand même que les gens qui n'entendent jamais ce genre de texte se privent de quelque chose.
Oui, oui.
Ça fait partie de la culture, ça fait partie du patrimoine. Il faut lire ça dans les écoles. Mais bien sûr, c'est évident, entre autres choses, évidemment. Mais il faut aussi lire ça. Et les gens seraient peut-être moins antisémites, d'ailleurs, entre parenthèses. Ce serait... pour moi, voilà, le combat, c'est d'arriver à lire la Bible de manière raisonnable, modeste...
Alors là, dans le début, je leur donnerai un cœur loyal. C'est en fait un cœur arade, c'est un cœur unique, un cœur unifié, quoi, en fait. Alors loyal, ça appauvrit peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur unifié, un cœur unique ? Je ne pense pas que ça soit la pensée unique, parce que justement, ils annoncent une sorte de Pentecôte où chacun reçoit finalement cet souffle de nouveauté qui vient de Dieu, qui est l'Esprit Saint, finalement. C'est unique, donc en communion avec Dieu, donc c'est là qu'il y aurait le cœur loyal peut-être, mais c'est aussi le cœur, c'est plutôt que d'avoir un être qui est quand même arraché entre différentes pulsions, idées, etc., c'est d'arriver à unifier ce cœur, C'est pas facile d'unifier son cœur, toutes ces composantes qui nous éparpillent et qui nous écartèlent. Là, ça vient de Dieu, comme tu dis, c'est à attendre par grâce finalement. Parce que bien malin qui peut, par ses propres forces, arriver à le faire. Je leur donnerai un cœur donc unifié.
Et je pense que d'ailleurs, loyal, moi je l'entends, moi j'aime beaucoup cet adjectif. Oui. Moi j'entends plus tellement la loi, parce que de fait ça vient de la loi, c'est celui oui. qui est. Mais moi je l'esprit vois effectivement un esprit qui n'est pas dissimulateur, quoi. Loyal, un regard franc, loyal. Pour moi c'est très positif.
Oui, c'est pas
alors quelquefois c'est vrai que c'est un peu le bon scout, quoi, qui est loyal, il y a un petit côté comme ça, oui, le prince Eric,
et bien sage.
Il y a une imagerie un peu aussi peut-être, parce que de toute façon on a tous des zones d'ombre, qui peut être complètement, mais enfin quand même l'adjectif est beau, moi j'aime assez
l'adjectif est beau, oui.
Ouais, mais ça sent un peu oui les années 30, Saint-Exupéry, il y a tout un univers où la loyauté. Je pense qu'aujourd'hui, dans les cours d'éducation civique, je reviens encore à l'école, mais je pense qu'on ne parle pas beaucoup de la loyauté.
Il y avait un mot qui est un peu plus ancien, mais qui était encore peut-être plus beau, c'est féal, en fait.
Ben, je pensais à lui, justement. Voilà. Oui, muse, j'étais ton féal. Bien sûr, il y a l'idée un peu féodale de la fidélité, c'est pour c'est ça que je pense au scout.
La fidèse, quoi. Voilà, c'est un cœur qui est, tout à fait. Qui est dans la fidélité, en fait.
Et qui n'est pas clivé, oui. Mais aujourd'hui, mais on parle aussi du vivre ensemble. Non.
Mais c'est plus que le vivre ensemble, c'est
pas
ça.
Je sais.
Mais ça peut être aussi le vivre ensemble, ça peut être cœur avec. Oui.
Non, j'ai trouvé intéressant cette question que vous avez dit, là, de rassembler et de mettre au même corps, parce que là, je l'ai traduit aussi de la Bible de l'Alliance. Il dit le même corps, je mettrai en vous.
Le même cœur.
Mais l'idée de deux royaumes, c'est vrai. Et pour un hébreu de l'époque, seul Dieu peut le faire. Ça ne peut pas reposer sur nos capacités diplomatiques, psychologiques, politiques, militaires. Voilà, ça vient d'ailleurs. Et ça, je trouve ça magnifique, de voir que l'unité n'est pas seulement... construite ou fabriquée, mais qu'elle se reçoit. C'est très beau. Je pense que c'est cette image-là. Ouais.
Et puis ça passe du « je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en vous un esprit neuf ». Et donc on passe du finalement des promesses pour les autres, qui nous réjouiraient grandement déjà, mais ça passe ensuite à « je mettrai en vous ». Et c'est vrai que ça, je trouve que ce passage est quand même assez... assez choquant pour le lecteur qui se dit mais en fait ça parle de moi et c'est pas inutile peut-être de le noter, je sais pas.
Et après ça retourne à eux.
Après ça retourne à eux, oui. Oui. Voilà. Alors peut-être on va lire Joël. Hein. C'est une plus longue lecture. Hein.
C'est très beau, il y a des animaux et tout.
Qui est-ce qui prend son souffle pour nous lire Joël.
Oui. Ah. Bah vous ferez le suivant.
Le Seigneur déborde de zèle pour son pays. Il a pitié de son peuple. Le Seigneur répond à son peuple. Eh bien, je vais vous envoyer le blé, le moût et l'huile fraîche. Vous en serez rassasiés. Jamais plus je ne ferai de vous un opprobre parmi les nations. Celui qui vient du nord, je l'éloigne de vous. je le chasse en une terre aride et désolée, son avant-garde vers la mer orientale, son arrière-garde vers la mer occidentale. Il en montrera une puanteur, il en montrera une infection. Oui, il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, exulte et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Ne craignez pas, bête des champs, les pâturages des steppes reverdissent, les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Vous, gens de Sion, exultez et réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu. Il vous donne la pluie d'automne pour vous sauver. Il fait tomber sur vous la verse, la pluie d'automne, la pluie de printemps, comme jadis. Les airs se remplissent de froment, les cuves débordent de moût et d'huile fraîche. Je compense pour vous les années que l'essaimeur a mangées, le lécheur, le décortiqueur, le trancheur, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété, vous louerez le nom du Seigneur, votre Dieu, qui a agi merveilleusement pour vous. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, et que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'avènement du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En effet, il y aura des rescapés sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, parmi les survivants que le Seigneur a fait.
Merci beaucoup. Alors il y a deux types. Bon, alors on retrouve effectivement au milieu, hein, dans Joël 3, le début de Joël 3, c'est cette même promesse finalement qu'on retrouve dans Jérémie, dans Ézéchiel, avec le don de l'Esprit Saint.
Quel est le contexte de Joël? Parce que je me souviens pas bien. C'est après le. Il écrit à quel moment?
Je sais pas très bien. Oui. Ça, oui.
Oui. Non, c'était juste pour...
Donc, il y a un peu la même, finalement, la même attente, hein, je veux dire, de... alors là, les fils, les filles, c'est déjà assez, j'allais dire, voilà, ni homme ni femme, comme dans Paul, hein. Il n'y a pas non plus de jeunisme en disant, il n'y a que les jeunes, il y a aussi les vieillards, hein, qui auront des visions divines. Alors, la tobe, mais même sur les serviteurs et les servantes, je trouve qu'ils sont quand même gonflés, parce que ça voudrait dire... Ah, le plus surprenant, c'est que même le sous-prolétariat va être prophète. Hein, mais en fait, il n'y a pas marqué même, il y a marqué aussi. Je veux dire simplement, c'est pour... au cas où vous auriez des doutes, bah oui, même les petites gens, je dirais sans éducation, sans culture, qui n'ont pas des doctorats de théologie, de philosophie et puis de je ne sais pas quoi d'autre, eh bien, auront l'Esprit Saint pour savoir, pour être éclairé et pour être finalement comme Moïse sur l'Horeb avec le feu, les nuages, les colonnes de feu, de sang, de je ne sais pas quoi. C'est donné à tous et à toutes. Alors là, c'est vrai que, bon, c'est spécialement, alors c'est, je crois que c'est, on le retrouve dans les Actes des Apôtres, cette idée comme étant accomplie finalement, hein. C'est une des preuves que Jésus est le Messie, c'est que c'est quelque chose qui arrive dans l'Église première et autour de Jésus, voilà. Alors sinon, à part cette annonce qui est effectivement, qui est absolument époustouflante et très concrète à mon avis pour nous, il y a deux types de salut que Dieu envoie. Il y a une pluie de bénédiction, hein, il fait pleuvoir, c'est dans les versets donc 2, 23, 24, il fait pleuvoir des pluies d'automne, des pluies de printemps qui vont faire tout pousser finalement. Donc c'est la bénédiction de Dieu finalement, c'est ce plus qui fait que en germe à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose de magnifique, en germe dans, dans nos familles, dans notre pays, dans notre planète, dans cette humanité, même si on ne le voyait pas, il y avait des germes de choses magnifiques qui étaient bien là présents. Et Dieu est un facilitateur, un germeur, et source de, voilà, de par sa, l'eau qui coule. Il rend possible qu'on devienne, qu'on prenne notre, qu'on s'épanouisse et qu'on puisse porter du fruit, voilà. Donc ça, je trouve que c'est ça la bénédiction. La deuxième bénédiction, elle est un petit peu en sous-jacente quand il parle des aires, les aires de battage où se remplissent de froment, les cuves qui débordent de moût et d'huile. C'est l'idée du jugement de Dieu, en fait, hein, du jugement de Dieu, parce que l'aire de battage, on sépare le bon grain de l'ivraie, on sépare le grain de la paille, et donc, et puis les cuves, ben c'est là où il y a le pressoir, hein, et donc on enlève la rafle, les pots, on enlève le noyau d'olive, et puis il y a ce miracle quand l'olive amère, pressée, donne de l'huile qui est douce. Et donc, c'est le jugement de Dieu qui garde le meilleur de chacun. Et ce jugement s'appelle en fait l'amour et la bienveillance. C'est-à-dire qu'il élimine ce qui est mauvais pour garder le meilleur. Alors, on retrouve partout hein, ces images dans la Bible, ancien comme nouveau, du blé, la moisson, le battage, la meule, la vendange, le pressoir, et puis le pressoir d'huile, puisque Jésus même, il est, hein, Gethsémané, c'est le lieu du pressoir mm-hmm. d'huile. Donc, vous voyez la référence aussi importante. Hein. Ça représente ce jugement de Dieu comme amour et purification. Contrairement à ce qu'on pense, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas un Dieu terrible, méchant, etc. Il y a des pages qui sont dures, qu'on peut lire comme on veut, soit les mettre de côté, soit plutôt, à mon avis, les lire allégoriquement, comme ça, grâce à ces images-là, si vous voulez, où c'est l'ennemi qui est supprimé, les sèmeurs, le lécheur, le décortiqueur, le trancheur, toutes ces bestioles, les sauterelles, les méchants qui vont être supprimés, les nations venant du nord qui vont être envoyées dans des terres arides et désolées. On pourrait dire que c'est tout ce qui est en nous, dans notre humanité, à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce qui est en nous est mauvais, source de mort. Eh bien, il va être progressivement poussé de côté, va s'assécher, va s'étioler et va perdre son pouvoir de nuisance. Voilà, donc je crois qu'on peut le lire d'une manière comme ça, allégorique, sans pour autant imaginer que Dieu va massacrer les pauvres Philistins, les pauvres Égyptiens, les pauvres je sais pas quoi, pas du tout. La preuve, c'est que si vous voyez, dans les populations du Nord, va y avoir Cyrus qui est considéré comme Messie, littéralement, hein, comme Christ, par les prophètes. Et qui pourtant est du royaume du Nord, hein, dans ces nations du Nord. Donc voilà, il y a ce tri-là aussi, traverse chacune et chacun, bien sûr.
Oui, j'ai toujours trouvé qu'effectivement, chez Joël, qui est méconnu, or, il a beaucoup nourri la liturgie, lorsqu'on regarde les antiennes, surtout dans la liturgie, avant le Concile Vatican II, les antiennes, les introïtes, etc. Souvent, Joël apparaît parce que c'est un gisement d'image, effectivement, et c'est très beau. Et moi, ça m'a toujours frappé, cette splendeur, cette abondance, cette générosité profuse dans les images. Mais on sent qu'on entre déjà dans la littérature, d'une certaine manière, mais au bon sens du mot. Les courants apocalyptiques de l'époque de Jésus vont aussi germer de tout ça. Mais c'est très frappant parce que Jérémie, Ézéchiel, ça n'est pas plus grêle, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est plus minimaliste. Il y a une économie de moyens et les visions sont un peu essentielles, c'est-à-dire qu'elles tournent autour de quelques images. Ici, tout d'un coup, on sent qu'il y a une paraphrase de toute une littérature prophétique qui est reprise, qui est développée, etc. Il y a un lyrisme, en fait. Il y a un développement des images, une amplification, comme on dit en rhétorique. Et ça, c'est, je trouve ça, ça j'y suis particulièrement sensible. Puis on retrouve, hein, je répandrai mon esprit sur toute chair, Colbassard, on avait vu ça en tout début d'année, il y a quelque chose d'un peu noachique, on est un peu dans l'arche de Noé. C'est pas pour rien, effectivement, qu'on voit la pluie, les cuves qui débordent, le figuier, les bêtes des champs, etc. Il y a quelque chose là de l'ordre de presque du poème de la création.
Oui, il y a la création entière qui exulte et chante.
Oui. Alors que les prophètes souvent sont plus tendus, quoi. Alors que là, il y a une, voilà, c'est beau, il y a un lyrisme bucolique, voilà, on aime. Apocalypse.
Apocalypse.
Alors, du coup, peut-être, mademoiselle. Oh.
Ah, quelqu'un.
C'est un beau morceau, l'Apocalypse.
Donc on est presque à la fin de l'Apocalypse, hein, puisque l'Apocalypse se termine au chapitre 22. C'est un très beau texte, voilà. Le monde ancien a disparu, vous voyez, on voit apparaître, a déjà disparu en fait. Vous voyez, c'est déjà du passé qui apparaît. Et donc l'Apocalypse, contrairement à ce qu'on pense parfois, ça ne parle pas du futur. Ça parle du présent, bien sûr, de la conversion, le présent de ce glissement, de cet advenu du salut donné en Jésus-Christ. Et donc, là encore, il ne faut pas seulement attendre le Christ qui viendra dans une génération future. Il faut que le Christ vienne dans le présent de nos existences et que le monde ancien disparaisse. Alors, ce monde ancien, on voit des références, par exemple, à la mer qui ne sera plus. On pense tout de suite, la mer, c'est une image du chaos. Donc, le chaos originel du début de la Genèse, de la première page de la Bible, finalement, puisque là, on est pratiquement à la dernière page de la Bible, eh bien, il y a ce chaos primordial qui est là, donc qui est de l'énergie, de la matière, de l'univers incréé, donc source qui est trouble. Et donc, la mer ne sera plus, donc enfin, la création sera achevée. Donc, ça nous présente le monde comme étant en Genèse. Et finalement, l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse nous renvoie à la première page de la Bible avec ce monde en chaos et cette création qui enfin arrive à son parachèvement, à son terme, qui est en train d'arriver à son terme. Donc je crois que l'idée que la création est continue et n'est pas finie, c'est un des points importants, à mon avis, pour comprendre l'existence du mal dans ce monde. En innocentant Dieu de ce mal. Dieu y travaille, il est dans cette création qui est en cours, et il y a cet optimisme qu'on peut avoir, d'abord de reconnaître déjà tout ce qu'il y a de beau et de réalisé dans ce monde, et puis aussi de savoir discerner cette gigantesque genèse d'un monde nouveau dans le monde présent.
D'ailleurs, on aurait pu rajouter le... Je pensais qu'on l'avait fait d'ailleurs, le verset suivant, où celui qui est sur le trône dit « Voici que je fais toute chose nouvelle ». La fameuse phrase. Et c'est presque la clé de ce que tu dis. C'est-à-dire « Voici que je fais maintenant toute chose nouvelle. » Avec vous, si vous le voulez, il vous est donné de pouvoir voir tout autrement. Voici que je fais toute chose nouvelle. Alors, effectivement, bon, tu dis, ça ne parle pas du futur, c'est le présent. Ouais, au fond, ça parle aussi peut-être de notre futur. Parce qu'à force,
du passé, du présent,
oui,
du
oui,
futur.
Oui, hein. Oui, 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 oui. Mais on ne peut pas se dire que finalement, si on l'a mis quand même à la fin du canon, bien sûr, l'Apocalypse, ce n'est pas, pas Madame Soleil, et puis ce n'est pas de la prospective, ce n'est pas Monsieur Attali là, qui voit 70 ans avant. C'est, bien sûr, c'est la description de la persécution, la bête, c'est Rome, c'est Néron, c'est tout ça. Et en même temps, on voit bien que cette nouveauté... Mais moi, je ne sais pas comment interpréter ça. Parce qu'il y a deux lectures possibles. Soit la nouveauté est en continuité avec le monde tel qu'il est, soit il y a une discontinuité. Il y a quelque chose quand même qui est transcendant.
Ben oui, là, c'est clair. Oui,
oui. Oui. Et ce n'est pas simple. Soit d'un côté, vous avez Teilhard de Chardin, l'histoire qui va vers son point oméga, etc. Donc une vision progressiste, on va dire, et les forces internes du sujet humain travaillent le monde et le royaume advient. Soit, effectivement, le monde, il y a quelque chose de cassé et nous, on n'y arrive pas et il faut bien qu'il y ait une nouveauté. Voilà. Et alors, comment entendre ça ? Alors, bien sûr, on peut dire c'est dialectique, c'est les deux. C'est... Moi, je ne sais pas.
Mais là, quand même, c'est vrai que c'est transcendant. C'est-à-dire que la Jérusalem, ce n'est pas simplement la Jérusalem ancienne qui est solidifiée,
qui est retapée.
Ravalée. Voilà, non, c'est une Jérusalem nouvelle qui descend quand même. Et ce n'est pas, donc c'est pas comme l'ancienne quand même.
Qui ne lui ressemble pas d'ailleurs en plus.
Oui, mais quand même, c'est Jérusalem. Hein. Donc. Voilà, je crois que ça fait tellement référence à cette Genèse qui est dans Genèse que c'est du transcendant qui vient soulever cette pâte et apporter une dimension nouvelle, moi je crois quand même. Et c'est pour ça que moi j'aime bien cette traduction hein, de Yahvé finalement par l'Apocalypse qui dit, qui le traduit, celui qui est, qui était et qui vient. Donc c'est bien ça finalement, Dieu est ça en lui-même, intrinsèquement j'allais dire, et c'est, je crois que c'est ce qui est décrit là, c'est-à-dire c'est à la fois ce qui était depuis toujours, c'est ce Dieu qui est à l'œuvre et qui apporte quelque chose d'une nouveauté absolument impossible à atteindre par la propre sagesse humaine, par la propre, voilà, mais quand même, qui a toujours été comme ça, source de cette nouveauté venue d'un monde nouveau, venue par Dieu, c'est aussi dans le présent et c'est à attendre encore, il continue à venir. Et moi, je vois ça plutôt ça, voilà. En même temps, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance absolue qui descend, comme l'accomplissement d'une de cette promesse, voilà. Ce qui est assez beau, je trouve aussi, c'est descendre d'auprès de Dieu comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'obéissance, dans la soumission, dans le Dieu se rend désirable en fait. Et c'est pas, il y a plus de chantage, il y a pas de menace, il y a pas de, il faut simplement, c'est tellement désirable et joyeux que. Je veux dire, on en a envie finalement de cette beauté, de la foi, de Dieu, de faire le bien, d'essayer d'être un peu, je dirais dire, fidèle à notre vocation, mais aussi aux autres autour. Hein. Voilà, je trouve que c'est une belle image.
Hein. Oui, ça pose la question. Oui.
De ce Dieu méchant parce que c'est complètement.
soins, des blessures profondes de ce type de lecture, de ce type de vision. Parce que quand on voit, quand on apprend comme ça, c'est parce que c'est une réalité qu'on n'a pas su lire. On n'a pas su lire le contexte, on a méprisé le contexte des choses, on n'a pas compris toute la totalité des choses, des événements qui se sont passés. Et on, de façon précipitée, on prend une lecture d'un Dieu qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas du tout vrai. Et du coup, on a ces mal à l'aise avec Dieu que comme vous dites là, on n'a pas là, on l'épouse qui s'est séparée de son époux, on a plus le conflit là, de conjugal, on est vraiment dans un rapport de tout ce qui s'est séparé par son époux. Il n'y a plus ce conflit-là.
Une alliance,
cette violence, cette rébellion contre ce Dieu qui toujours vient vers nous.
Ouais.
Toujours vient rassembler le dispersé, vient vers nous tout le temps.
Et ça marche. Enfin.
Ça marche enfin.
Oui, c'est très étonnant parce que pour moi, ça pose la question, comme on est à la fin de notre parcours, la question du salut quand même. Pour un historien des religions, le christianisme est une religion du salut. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On approche le salut à travers des figures, c'est une des figures. Le ciel nouveau, la terre nouvelle, la Jérusalem nouvelle, c'est une des figures du salut. Vous savez qu'il y en a d'autres. Pendant l'année, on en a vu d'autres. La justification, c'est une figure du salut qui est chez saint Paul, qui est difficile à comprendre, mais qui pour moi est très très importante. Le pardon, le rachat, hein, la rédemption, c'est une figure du salut. Dans la culture populaire, le paradis, c'est une figure de salut. Ici, c'est une figure de salut. Et je pense que il faut se demander si nous attendons ce salut-là. Trop souvent, les gens, finalement, est-ce qu'ils veulent être sauvés ? C'est la question qu'on peut se poser. Ils veulent être éternels. Ils veulent être immortels.
C'est un salut, oui.
Oui, c'est un salut, tout à fait, parce que la mort, on voit bien ici, il n'y aura plus de mort. Et donc, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est plus que ça qui nous est offert. Plus que l'idée que, voilà, plus que une sorte de caisson éternel où on sera éternellement jeune, hibernatus. Non, parce que c'est trop souvent ça l'image du salut. Parce que comme on n'ose plus dire on va nous sauver du péché, alors on dit de quoi ? De la mort, ah oui, comme ça. Et comme on joue avec les peurs et on va consoler les gens. Bon, mais le salut, c'est l'idée. Alors évidemment, ceux qui en ont une grande idée, c'est souvent les grands pécheurs, effectivement. Les Augustins, les Ignaces, etc. Parce que, voilà, ils ont mesuré le pardon. Ils ont mesuré les impasses, etc. Et là, oui, il y a un salut, effectivement. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est extraordinaire. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, c'est comme ça qu'on me présentait le salut. Et finalement, c'est quand même ça. Or, on sait très bien que le monde ancien s'en est allé. Bon, mais nous, on est dans le monde ancien. On est dans le monde ancien, et donc il y a des cris, il y a de la souffrance, etc. Et on ne le sait que trop. Et annoncer ce monde nouveau, c'est notre rôle de témoin, etc. Mais c'est fou.
Oui.
Mais il faut le faire.
Oui, mais en même temps, ça descend. Est-ce que c'est vraiment pour la vie future, ça dont on parle ? Je ne suis pas convaincu, si vous voulez.
Ah, mais être sauvé même maintenant
mais parce qu'il voit ça, j'allais dire, descendre du ciel, alors qu'il est sur terre, quand même.
Oui.
Donc, ce n'est pas simplement... c'est quelque chose qui vient, quoi. Et donc, c'est quelque chose sur lequel... je veux dire qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre dans le présent... Ce Dieu avec nous. Alors là, c'est pas tellement. Moi, je regrette, c'est que en même temps, bon, c'est pour rendre la lecture, le texte plus lisible. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Mais là, c'est une tente en fait. Voici la tente. C'est une tente de camping en fait. C'est la tente de nomade. Donc ça dit ce que ça enlève d'une main ce que ça dit de l'autre. Et ça, je trouve que c'est sympa. C'est-à-dire que c'est pas une... Comme tu dis, c'est pas figé, hibernatus. C'est cette demeure de Dieu, magnifique, elle descend. Et en fait, c'est une tente de nomade, une peau de chèvre cousue, quoi. Qui est faite pour être démontée, pour avancer, pour bouger. Et donc il y a une chose de très... là encore, de très dynamique, finalement, qui est suggérée là-dedans. Et il demeurera, non, il demeurera pas avec eux, il campera avec eux, finalement. Et c'est, moi, je trouve que c'est tellement surprenant, parce que ça existe, demeurer. Hein, c'est Ménéine, on l'a parlé dans le début de Jean, vous voyez, il demande à Jésus, où demeures-tu? Et là, c'est le demeure de chez demeurer, c'est demeure pour l'éternité, ce qui est de l'ordre de l'éternel. Mais là, c'est pas, c'est skene, skenein ou skenao, je ne sais plus, skenao, c'est, non, c'est vraiment camper pour une étape, en fait. Ce Dieu qui nous rejoint là où nous sommes, pour cette étape que nous avons sur terre et qui vient camper là, en nous, par son esprit, avec nous, au milieu de nous. C'est toujours ambigu, hein, quand on dit l'esprit en nous, ou Dieu, oui, avec eux, c'est à la fois en nous, c'est à la fois en chacun, et à la fois c'est aussi au milieu de nous tous, dans nos interactions, quand elles sont fidèles, voilà, nourries par l'esprit.
C'est aussi la chair qui pleure, c'est la chair qui souffre.
Ben oui.
Donc il n'y aura plus de chair,
je ne sais pas sûr, justement, qui est
moi, je, la question, moi, on peut presque imaginer un salut dans la finitude. Mais on ne peut pas le dire. Mais comme si, finalement, la vie éternelle, au fond, était donnée en plus, par surcroît. Et que, mais que ce n'est pas ça qu'il faut désirer.
Mais ça, c'est clair. C'est ce oui. que dit sans arrêt.
Je sais bien. Mais,
et Jésus le dit aussi. Il dit, voilà, oui, quiconque croit. Ah, maintenant, la vie éternelle, bon, par ailleurs, ça ne mourra pas, mais je crois que c'est la même chose qui est ici, puisque d'abord, c'est johannique aussi, mais c'est dans cette finitude que la Jérusalem descend et qu'on participe déjà à ça. Et déjà, peut-être, ça efface. C'est pas qu'il n'y a plus de... c'est que déjà, ça s'efface, vous voyez. On est dans ce glissement. Et c'est vrai qu'à mon avis... C'est une des leçons de la foi, c'est peut-être de relativiser aussi un certain nombre de choses et de catastrophes qui nous arrivent par rapport à quelque chose de plus grand qui n'annule pas, mais qui permet peut-être de passer ou de voir de plus haut, peut-être ça aussi. Et peut-être que c'est aussi la leçon de l'âge aussi, si vous voulez. Quand on prend de l'âge, alors on dit la vieillesse est un naufrage, mais pas seulement, c'est aussi une leçon de vie peut-être, hein, d'apprendre à garder l'essentiel qui lui demeure. Hein, et c'est, voilà, c'est peut-être aussi cet apprentissage d'un monde ancien qui a disparu. Voilà, non, je ne sais pas comment on peut le comprendre. En tout cas, c'est à méditer à mon avis, et c'est quand même extrêmement... Le Dieu avec nous, l'Emmanuel, c'est quand même une... Pour nous, on le reconnaît en Christ, bien sûr. Donc la réalisation de cette promesse, c'est pas simplement pour le futur, attendre un monde, une irruption dans l'histoire. Alors, on va le voir dans Marc, si on a le temps de le lire, on va le lire juste en conclusion, à mon avis, sans tellement le s'attarder dessus, parce qu'on n'a pas le temps. Mais... Je ne crois pas que Jésus est... c'est ce que disait Albert Schweitzer, que par ailleurs j'aime beaucoup. Bon, ce n'est pas non plus un Jésus-Christ. Hein, il était colonialiste un peu sur les bords aussi. Mais il pensait que Jésus s'était trompé et qu'il s'est dit qu'à sa mort, voilà, il y aurait la fin de l'histoire et que le royaume de Dieu allait arriver d'une manière violente. Les premiers chrétiens, l'Église primitive l'a cru, on le sait. Mais je ne pense pas que Jésus s'était trompé tellement là-dessus. Bon, peut-être, après tout. Hein. Mais c'est possible. Hein. Mais moi, je ne suis pas sûr, parce que si vous voulez, il était quand même exégète et il savait de quoi parle quand même, justement, ce glissement du temps et cette progressivité de la venue de cette Jérusalem céleste. Hein. Parce qu'on le voit bien dans ce texte, à mon avis. On parle des anges qui viennent, et c'est quand même une lecture métaphorique à lire spirituellement, à mon avis. Mais, bon.
Voilà, on peut laisser peut-être à Jésus, d'ailleurs,
le dernier mot. Il y a pire,
et puis, voilà.
Et puis, on a trois petites brioches à partager pour terminer. Qu'est-ce qui peut nous lire ce beau texte de l'Évangile selon Marc ? Ah, d'accord, merci.
Évangile selon saint Marc. Alors, on verra le Fils de l'homme venir entouré de nuées dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors, il enverra les anges et des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à votre porte, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, les paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au matin de la nuit, au matin ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.
Et ben voilà, donc c'est notre mot d'ordre pour, repartir après cette série de lectures bibliques que nous avons eues ensemble. Et donc, merci d'avoir été avec nous, voilà, jusque maintenant. Puis alors, bon, comme je vous disais, il y a deux petites brioches que nous pouvons partager, et puis un petit peu de jus d'orange, comme on le fait souvent à la fin de ce cycle, pour avoir un petit moment peut-être un peu plus...
Le verre de l'amitié.
Le verre de l'amitié à la fin. Donc, merci beaucoup.
Voilà.